Chapitre 4. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où la comtesse Labinska avait arrêté sur les lèvres d'Octave la déclaration d'amour qu'elle ne devait pas entendre. Octave, tombé du haut de son rêve, s'était éloigné, ayant au foie le bec d'un chagrin noir, et n'avait pas donné de ses nouvelles à Praskovie. L'unique mot qu'il eût pu lui écrire était le seul défendu. Mais plus d'une fois, la pensée de la comtesse, effrayée de ce silence, s'était reportée avec mélancolie sur son pauvre adorateur. L'avait-il oublié? Dans sa divine absence de coquetterie, elle le souhaitait, sans le croire, car l'inextinguible flamme de la passion illuminait les yeux d'Octave, et la comtesse n'avait pu s'y méprendre. L'amour et les dieux se reconnaissent au regard. Cette idée traversait comme un petit nuage le limpide azur de son bonheur et lui inspirait la légère tristesse des anges qui, dans le ciel, se souviennent de la terre. Son âme charmante souffrait de savoir là-bas quelqu'un malheureux à cause d'elle. Mais que peut l'étoile d'or scintillante au haut du firmament pour le pâtre obscur qui lève vers elle des bras éperdus? Autant mythologique, Phébé descendit bien déçu en rayon d'argent sur le sommeil d'Endymion. Elle n'était pas mariée à un comte polonais. Dès son arrivée à Paris, la comtesse Labinska avait envoyé à Octave cette invitation banale que le docteur Balthazar, cher Bonneau, tournait distraitement entre ses doigts, et en ne le voyant pas venir, quoiqu'elle l'eût voulu guéri, elle s'était dit avec un mouvement de joie involontaire « Mais il m'aime toujours !» C'était cependant une femme d'une angélique pureté et chaste comme la neige du dernier sommet de l'Himalaya. Mais Dieu lui-même, au fond de son infini, n'a pour se distraire de l'ennui des éternités que le plaisir d'entendre battre pour lui le cœur d'une pauvre petite créature périssable sur un chétif globe, perdu dans l'immensité. Praskovie n'était pas plus sévère que Dieu, et le comte d'Olaf n'eût pu blâmer cette délicate volupté d'âme. « Votre récit, que j'ai écouté attentivement, dit le docteur, Octave me prouve que tout cet espoir de votre part serait chimérique. Jamais la comtesse ne partagera votre amour. » Vous voyez bien, monsieur Cherbonneau, que j'avais raison de ne pas chercher à retenir ma vie qui s'en va. Oh, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'espoir avec les moyens ordinaires, continua le docteur, mais il existe des puissances occultes que méconnaît la science moderne, et dont la tradition s'est conservée dans ce pays étrange, nommé barbare par une civilisation ignorante. Là, au premier jour du monde, le genre humain, en contact immédiat avec les forces vives de la nature, savait des secrets qu'on croit perdus, et que n'ont point compté emporter dans leur migration les tribus qui plus tard ont formé les peuples. Ces secrets furent transmis d'abord d'initié à initié, dans les profondeurs mystérieuses des temples, écrits ensuite en idiome sacré, incompréhensible aux vulgaires, sculptés en panneaux d'hiéroglyphes le long des parois cryptiques d'Ellora. Et vous trouverez encore, sur les croupes du mont Mérou, d'où s'échappe le Gange, au bas de l'escalier de marbre blanc de Bénarès, la ville sainte, au fond des pagodes en ruines de Ceylan, quelques brames centenaires, épelant des manuscrits inconnus, quoique yogi occupé à redire l'ineffable monosyllabe om, sans s'apercevoir que les oiseaux du ciel nichent dans leurs chevelures. Quelques fakirs dont les épaules portent les cicatrices des crochets de fer de Jagirnath qui les possèdent, ces arcanes perdus, et en obtiennent des résultats merveilleux lorsqu'ils daignent s'en servir. Notre Europe, tout absorbée par les intérêts matériels, ne se doute pas du degré de spiritualisme où sont arrivés les pénitents de l'Inde. Des jeûnes absolus, des contemplations effrayantes de fixité, des posteurs impossibles gardés pendant des années entières, atténuent si bien leur corps que vous diriez aller voir accroupis sous un soleil de plomb, entre des brasiers ardents, laissant leurs ongles grandir, leur percer la paume des mains, des momies égyptiennes retirées de leurs caisses et ployées en des attitudes de singes. Leur enveloppe humaine n'est plus qu'une chrysalide que l'âme, papillon immortel, peut quitter ou reprendre à volonté. Tandis que leur maigre dépouille reste là, inerte, horrible à voir, comme une larve nocturne surprise par le jour, leur esprit, libre de tout lien, s'élance sur les ailes de l'hallucination, à des hauteurs incalculables dans les mondes surnaturels. Ils ont des visions et des rêves étranges. Ils suivent d'extase en extase les ondulations que font les âges disparus sur l'océan de l'éternité. Ils parcourent l'infini en tous sens, assistent à la création des univers, à la jeunesse des dieux et à leur métamorphose. La mémoire leur revient des sciences englouties par les cataclysmes plutoniens et diluviens, des rapports oubliés de l'homme et des éléments. Dans cet état bizarre, ils marmottent des mots appartenant à des langues qu'aucun peuple ne parle plus depuis des milliers d'années sur la surface du globe, et ils retrouvent le verbe primordial, le verbe qui a fait jaillir la lumière des antiques ténèbres. On les prend pour des fous, mais ce sont presque des dieux. Ce préambule singulier surexcitait au dernier point l'attention d'Octave qui, ne sachant où M. Balthazar Cherbonneau voulait en venir, fixait sur lui des yeux étonnés et pétillants d'interrogation. Il ne devinait pas quel rapport pouvaient offrir les pénitents de l'Inde avec son premier amour pour la comtesse Praskovi-Labinska. Le docteur le vit dans sa pensée d'Octave, lui fit un signe de main comme pour prévenir ses questions et lui dit « Patience, mon cher malade, vous allez comprendre tout à l'heure que je ne me livre pas à une digression inutile. Las d'avoir interrogé avec le scalpel sur le marbre des amphithéâtres des cadavres qui ne me répondaient pas et me laissaient voir que la mort quand je cherchais la vie, je formais le projet, un projet aussi hardi que celui de Prométhée escaladant le ciel pour y ravir le feu, d'atteindre, de surprendre l'âme, de l'analyser et de la disséquer, pour ainsi dire. J'abandonnais les faits pour la cause et pris en dédain profond la science matérialiste dont le néant m'était prouvé. Agir sur ces formes vagues, sur ces assemblages fortuits de molécules aussitôt dissous, me semblait la fonction de l'empirisme grossier. J'essayais, par le magnétisme, de relâcher les liens qui enchaînent l'esprit à son enveloppe. J'eus bientôt dépassé Mesmer, Deslon, Maxwell, puis Ségur, Deleuze et les plus habiles dans des expériences vraiment prodigieuses, mais qui ne me contentaient pas encore. Catalepsie, somnambulisme, vue à distance, lucidité extatique, je produisis à volonté tous ces effets inexplicables pour la foule, simples et compréhensibles pour moi. Je remontais plus haut. Des ravissements de Cardan et de saint Thomas d'Aquin, je passais aux crises nerveuses des Pythies. Je découvris les arcanes des époptes grecques et des nébimes hébreux. Je m'initiais rétrospectivement au mystère de Trophios et d'Esculape, reconnaissant toujours dans les merveilles qu'on en raconte une concentration ou une expansion de l'âme provoquée soit par le geste, soit par le regard, soit par la parole, soit par la volonté ou tout autre agent inconnu. Je refis un à un tous les miracles d'Apollonius de Tyane. Pourtant, mon rêve scientifique n'était pas accompli. L'âme m'échappait toujours. Je la pressentais, je l'entendais. J'avais de l'action sur elle. J'engourdissais ou j'excitais ses facultés. Mais entre elle et moi, il y avait un voile de chair. que je pouvais écarter sans qu'elle s'envolât. J'étais comme l'oiseleur qui tient un oiseau sous un filet qu'il n'ose relever de peur de voir sa proie ailée se perdre dans le ciel. Donc je partis pour l'Inde, espérant trouver le mot de l'énigme dans ce pays de l'antique sagesse. J'appris le sanskrit, le prakrit, les idiomes savants et vulgaires. Je pus converser avec les pandits et les brahmins. Je traversai les jungles où Rock le tigre aplati sur ses pattes. Je longeai les étangs sacrés qu'écaillent le dos des crocodiles. Je franchis les forêts impénétrables barriquées d'un nez de liane, laissant envoler des nuées de chauves-souris et de singes, me trouvant face à face avec l'éléphant au détour du sentier, frayé par les bêtes fauves pour arriver à la cabane de quelques yogis célèbres, en communication avec les mounis, et je m'assis les jours entiers près de lui, partageant sa peau de gazelle, pour noter les vagues incantations que murmurait l'extase sur ses lèvres noires et fendillées. Je saisis de la sorte des mots tout-puissants, des formules évocatrices, des syllabes du Verbe créateur. J'étudiais les sculptures symboliques dans les chambres intérieures des pagodes que n'a vu nul œil profane et où une robe de brame me permettait de pénétrer. Je lus bien des mystères cosmogoniques, bien des légendes de civilisations disparues. Je découvris le sens des emblèmes que tiennent dans leurs mains multiples ces dieux hybrides et touffus comme la nature de l'Inde. Je méditais sur le cercle de Brahma, le lotus de Vishnu, le cobra capello de Shiva, le dieu bleu. Ganesha, déroussant sa trompe de pachyderme et clignant ses petits yeux frangés de longs cils, semblait sourire à mes efforts et encourager mes recherches. Toutes ces figures monstrueuses me disaient dans leur langue de pierre: nous ne sommes que des formes, c'est l'esprit qui agite la masse. Un prêtre du temple des Tirunalamay, à qui je fis part de l'idée qui me préoccupait, m'indiqua, comme parvenu au plus haut degré de sublimité, un pénitent qui habitait une des grottes de l'île d'Elephanta. Je le trouvai adossé au mur de la caverne, enveloppé d'un bout de sparterie, les genoux au menton, les doigts croisés sur les jambes, dans un état d'immobilité absolue. Ses prunelles retournées ne laissaient voir que le blanc. Ses lèvres bridaient sur ses dents déchaussées. Sa peau, tannée par une incroyable maigreur, adhérait aux pommettes. Ses cheveux, rejetés en arrière, pendaient par mèches roides comme des filaments de plantes du sourcil d'une roche. Sa barbe s'était divisée en deux flots qui touchaient presque terre, et ses ongles se recourbaient en serre d'aigle. Le soleil l'avait desséché et noirci, de façon à donner à sa peau d'Indien, naturellement brune, l'apparence du basalte. Ainsi posé, il ressemblait de forme et de couleur à un vase canopique. Au premier aspect, je le crus mort. Je secouai ses bras comme ankylosés par une roideur cataleptique. Je lui criai à l'oreille de ma voix la plus forte les paroles sacramentelles qui devaient me révéler à lui comme initié. Il ne tressaillit pas. Ses paupières restèrent immobiles. J'allais m'éloigner, désespérant d'en tirer quelque chose, lorsque j'entendis un pétillement singulier. Une étincelle bleuâtre passa devant mes yeux avec la fulgurante rapidité d'une lueur électrique, voltigea une seconde sur les lèvres entrouvertes du pénitent et disparut. Brahma Logum, c'était le nom du saint personnage, sembla se réveiller d'une léthargie. Ses prunelles reprirent leur place. Il me regarda avec un regard humain et répondit à mes questions. Eh bien, tes désirs sont satisfaits? Tu as vu une âme? Je suis parvenu à détacher la mienne de mon corps quand il me plaît. Elle en sort, elle y rentre comme une abeille lumineuse, perceptible aux yeux seuls des adeptes. J'ai tant jeûné, tant prié et tant médité, je me suis macéré si rigoureusement que j'ai pu dénouer les liens terrestres qui l'enchaînent, et que Vishnu, le dieu aux 10 incarnations, m'a révélé le mot mystérieux qui la guide dans ses avatars à travers les formes différentes. Si, après avoir fait les gestes consacrés, je prononçais ce mot, ton âme s'envolerait pour animer l'homme ou la bête que je lui désignerais. Je te lègue ce secret que je possède seul maintenant au monde. Je suis bien aise que tu sois venu, car il me tarde de me fondre dans le sein de l'incréé comme une goutte d'eau dans la mer. Et le pénitent me chuchota d'une voix faible comme le dernier râle d'un mourant et pourtant distincte quelques syllabes qui me firent passer sur le dos ce petit frisson dont parle Job. « Mais que voulez-vous dire, docteur ?» s'écria Octave. « Je n'ose sonder l'effrayante profondeur de votre pensée. »« Je veux dire, répondit tranquillement M. Balthazar Charbonneau, que je n'ai pas oublié la formule magique de mon ami Brahmalogum, et que la comtesse Praskovi serait bien fine si elle reconnaissait l'âme d'Octave de Saville dans le corps d'Olaf Labinski. » Chapitre 5. La réputation du docteur Balthazar Charbonneau comme médecin et comme thaumaturge commençait à se répandre dans Paris. Ses bizarreries affectées ou vraies l'avaient mise à la mode. Mais, loin de chercher à se faire, comme on dit, une clientèle, il s'efforçait de rebuter les malades en leur fermant sa porte ou en leur ordonnant des prescriptions étranges, des régimes impossibles. Il n'acceptait que des cas désespérés, renvoyant à ses confrères, avec un dédain superbe, les vulgaires fluxions de poitrine, les banales entérites, les bourgeoises fièvres typhoïdes, et dans ces occasions suprêmes, il obtenait des guérisons vraiment inconcevables. Debout, à côté du lit, il faisait des gestes magiques sur une tasse d'eau, et des corps, déjà roides et froids, tout prêts pour le cercueil, après avoir avalé quelques gouttes de ce breuvage en desserrant des mâchoires crispées par l'agonie, reprenaient la souplesse de la vie, les couleurs de la santé, et se redressaient sur leur séant, promenant autour d'eux des regards accoutumés déjà aux ombres du tombeau. Aussi l'appelait-on le médecin des morts ou le résurrectionniste. Encore ne consentait-il pas toujours à opérer ses cures, et souvent refusait-il les sommes énormes de la part de riches moribonds. Pour qu'il se décidât à entrer en lutte avec la destruction, il fallait qu'il fût touché de la douleur d'une mère implorant le salut d'un enfant unique, du désespoir d'un amant demandant la grâce d'une maîtresse adorée, ou qu'il jugeât la vie menacée et utile à la poésie, à la science et au progrès du genre humain. Il sauva de la sorte un charmant bébé dont le croup serrait la gorge avec ses doigts de fer, une délicieuse jeune fille phtisique au dernier degré, un poète en proie au délirium très mince, un inventeur attaqué d'une congestion cérébrale et qui allait enfouir le secret de sa découverte sous quelques pelletées de terre. Autrement dit, il disait qu'on ne devait pas contrarier la nature, que certains morts avaient leur raison d'être et qu'on risquait en les empêchant de déranger quelque chose dans l'ordre universel. Vous voyez bien que M. Balthazar Charbonneau était le docteur le plus paradoxal du monde et qu'il avait rapporté de l'Inde une excentricité complète. Mais sa renommée de magnétiseur l'emportait encore sur sa gloire de médecin. Il avait donné, devant un petit nombre d'élus, Quelques séances dont on racontait des merveilles à troubler toutes les notions du possible ou de l'impossible et qui dépassaient les prodiges de Cagliostro. Le docteur habitait le rez-de-chaussée d'un vieil hôtel de la rue du Regard, un appartement en enfilade, comme on les faisait jadis, et dont les hautes fenêtres ouvraient sur un jardin planté de grands arbres aux troncs noirs, au grêle feuillage vert. Quoi qu'on fût en été, de puissants calorifères soufflaient par leurs bouches grillées de laiton des trombes d'air brûlant dans les vastes salles, et on maintenait la température à 35 ou 40 degrés de chaleur, car M. Balthazar Cherbonneau, habitué au climat incendiaire de l'Inde, grelottait à l'opale soleil, comme ce voyageur qui, revenu des sources du Nil bleu dans l'Afrique centrale, tremblait de froid au Caire, et il ne sortait jamais qu'en voiture formée, frileusement emmaillotée d'une pelisse de renard bleu de Sibérie et des pieds posé sur un manchon de fer blanc rempli d'eau bouillante. Il n'y avait d'autres meubles dans ces salles que des divans bas en étoffe malabar, historiés d'éléphants chimériques et d'oiseaux fabuleux, des étagères découpées, coloriées et dorées avec une naïveté barbare par les naturels de Ceylan, des vases du Japon pleins de fleurs exotiques. Et sur le plancher s'étalait d'un bout à l'autre de l'appartement un de ces tapis funèbres à ramages noirs et blancs que tissent pour pénitence les tucs en prison et dont la trame semble faite avec le chanvre de leurs cordes d'étrangleurs. Quelques gigolos hindous de marbre ou de bronze, aux longs yeux en amande, au nez cerclé d'anneaux, aux lèvres épaisses, et souriante aux colliers de perles descendant jusqu'au nombril, aux attributs singuliers et mystérieux, croisaient leurs jambes sur des pieds douches dans les encoignures. Le long des murailles étaient appendues des miniatures gouachées, œuvres de quelques peintres de Calcutta ou de Lucknow, qui représentaient les 9 avatars déjà accomplis de Vishnu, en poisson, en tortue, en cochon, en lion à tête humaine, en un brahmine, en rama, en héros combattant le géant aux 1000 bras Kartasukshiyarghunan, en Krishna, l'enfant miraculeux dans lequel les rêveurs voient un Christ indien, en Bouddha, adorateur du grand dieu Mahadevi, et enfin, le montrait endormi au milieu de la mer lactée, sur la couleuvre aux 5 têtes recourbées en dais, attendant l'heure de prendre pour dernière incarnation la forme de ce cheval blanc et ailé qui, en laissant retomber son sabot sur l'univers, doit amener la fin du monde. Dans la salle du fond, chauffée plus fortement encore que les autres, se tenait M. Balthazar Cherbonneau, entouré de livres sanscrits tracés au poinçon sur de minces lames de bois percées d'un trou et réunies par un cordon de manière à ressembler plus à des persiennes qu'à des volumes, comme les entend la librairie européenne. Une machine électrique avec ses bouteilles remplies de feuilles d'or et ses disques de verre tournés par des manivelles élevait sa silhouette inquiétante et compliquée au milieu de la chambre, à côté d'un baquet mesmérique où plongeait une lance de métal et d'où rayonnaient de nombreuses tiges de fer. Monsieur Cherbonneau n'était rien moins que charlatan et ne cherchait pas la mise en scène. Mais cependant, il était difficile de pénétrer dans cette retraite bizarre sans éprouver un peu de l'impression que devaient causer autrefois les laboratoires d'alchimie. Le comte Olaf Labinski avait entendu parler des miracles réalisés par le docteur, et sa curiosité demi-crédule s'était allumée. Les races slaves ont un penchant naturel au merveilleux que ne corrige pas toujours l'éducation la plus soignée, et d'ailleurs des témoins dignes de foi qui avaient assisté à ces séances en disaient de ces choses qu'on ne peut croire sans les avoir vues, quelque confiance qu'on ait dans leur narrateur. Il alla donc visiter le thaumaturge. Lorsque le comte Labinski entra chez le docteur Balthazar Cherbonneau, il se sentit comme entouré d'une vague flamme. Tout son sang afflua vers sa tête, les veines des tempes lui sifflèrent. L'extrême chaleur qui régnait dans l'appartement le suffoquait. Les lampes où brûlaient les feuilles huiles aromatiques, les larges fleurs de Java balançant leurs énormes calices comme des encensoirs, l'enivraient de leurs émanations vertigineuses et de leurs parfums asphyxiants. Il fit quelques pas en chancelant vers M. Cherbonneau, qui se tenait accroupi sur son divan, dans une de ces étranges poses de fakir ou de sannyasi, dont le prince Soltikov a si pittoresquement illustré son voyage de l'Inde. On eût dit, à le voir dessinant des angles de ses articulations sous les plis de ses vêtements, une araignée humaine, pelotonnée au milieu de sa toile et se tenant immobile devant sa proie. À l'apparition du comte, ses prunelles de turquoise s'illuminèrent de lueurs phosphorescentes au centre de leur orbite, dorées du bistre de l'hépatite, et s'éteignirent aussitôt comme recouvertes par une taie volontaire. Le docteur étendit la main vers Olaf, dont il comprit le malaise et, en deux ou trois passes, l'entoura d'une atmosphère de printemps, lui créant un frais paradis dans cet enfer de chaleur. « Où trouvez-vous mieux à présent ? Vos poumons, habitués aux brises de la Baltique qui arrivent toutes froides encore de s'être roulées sur les neiges centenaires du pôle, devaient haleter comme des soufflets de forge cet air brûlant. Cependant, je grelotte, moi, cuit et recuit, et comme calciné aux fournaises du soleil. » Le comte Olaf Labinski fit un signe pour témoigner qu'il ne souffrait plus de la haute température de l'appartement. « Eh bien, » dit le docteur avec un accent de bonhomie, « vous avez entendu parler sans doute de mes tours de passe-passe, et vous voulez avoir un échantillon de mon savoir-faire. Oh, je suis plus fort que Comus, Comte ou Bosco. » Oh, ma curiosité n'est pas si frivole, répondit le comte, et j'ai plus de respect pour un des princes de la science. Je ne suis pas un savant dans l'acception qu'on donne à ce mot, mais au contraire, en étudiant certaines choses que la science dédaigne, je me suis rendu maître des forces occultes inemployées et je produis des effets qui semblent merveilleux, quoique naturels. À force de la gaieté, j'ai quelquefois surpris l'âme. Elle m'a fait des confidences dont j'ai profité et dit des mots que j'ai retenus. L'esprit est tout, la matière n'existe qu'en apparence. L'univers n'est peut-être qu'un rêve de Dieu ou qu'une irradiation du Verbe dans l'immensité. Je chiffonne à mon gré l'agonie du corps, j'arrête ou je précipite la vie, je déplace les sens, je supprime l'espace, j'anéantis la douleur sans avoir besoin de chloroforme, d'éther ou de toute autre drogue anesthésique. Armé de la volonté, cette électricité intellectuelle, je vivifie ou je foudroie. Rien n'est plus opaque pour mes yeux. Mon regard traverse tout. Je vois distinctement les rayons de la pensée et comme on projette les spectres solaires sur un écran, je peux les faire passer par mon prisme invisible et les forcer à se réfléchir sur la toile blanche de mon cerveau. Mais tout cela est peu de choses à côté des prodiges qu'accomplissent certains yogis de l'Inde, animés au plus sublime degré d'ascétisme. Nous autres, Européens, nous sommes trop légers, trop distraits, trop futiles, trop amoureux de notre prison d'argile pour y ouvrir de bien larges fenêtres sur l'éternité et sur l'infini. Cependant, j'ai obtenu quelques résultats assez étranges, et vous allez en juger. dit le docteur Balthazar Chaboneau, en faisant glisser sur leur tringle les anneaux d'une lourde portière qui masquait une sorte d'alcôve pratiquée dans le fond de la salle. À la clarté d'une flamme d'esprit de vin qui oscillait sur un trépied de bronze, le comte Olaf Labinski aperçut un spectacle effrayant qui le fit frissonner malgré sa bravoure. Une table de marbre noir surportait le corps d'un jeune homme nu jusqu'à la ceinture et gardant une immobilité cadavérique. De son torse hérissé de flèches comme celui de Saint-Sébastien, il ne coulait pas une goutte de sang. On l'eût pris pour une image de martyr colorié, où l'on aurait oublié de teindre de cinabre les lèvres des blessures. Cet étrange médecin, dit en lui-même Olaf, est peut-être un adorateur de Shiva, et il aura sacrifié cette victime à son idole. Oh, il ne souffre pas du tout, piquez-le sans crainte, pas un muscle de sa face ne bougera. Et le docteur lui enlevait les flèches du corps comme l'on retire les épingles d'une pelote. Quelques mouvements rapides de main dégagèrent le patient du réseau d'effluves qui l'emprisonnait, et il s'éveilla, le sourire de l'extase sur les lèvres, comme sortant d'un rêve bienheureux. Monsieur Balthazar Cherbonneau le congédia du geste. Il se retira par une petite porte coupée dans la boiserie dont l'alcôve était revêtue. J'aurais pu lui couper une jambe ou un bras sans qu'il s'en aperçût, dit le docteur en plissant ses rides en façon de sourire. Je ne l'ai pas fait parce que je ne crée pas encore et que l'homme inférieur au lézard, cela n'a pas une sève assez puissante pour reformer les membres qu'on lui retranche. Mais si je ne crée pas, en revanche, je rajeunis. Et il enleva le voile qui recouvrait une femme âgée, magnétiquement endormie sur un fauteuil, non loin de la table de marbre noir. Ses traits, qui avaient pu être beaux, étaient flétris, et les ravages du temps se lisaient sur les contours amaigris de ses bras, de ses épaules et de sa poitrine. Le docteur fixa sur elle pendant quelques minutes, avec une intensité opiniâtre, les regards de ses prunelles bleues. Les lignes altérées se raffermirent, le galbe du sein reprit sa pureté virginale, une chair blanche et satinée remplit les maigreurs du col. Les joues s'arrondirent et se veloutèrent comme des pêches de toute la fraîcheur de la jeunesse. Les yeux s'ouvrirent, scintillant dans un fluide vivace. Le masque de vieillesse, enlevé comme par magie, laissait voir la belle jeune femme disparue depuis longtemps. Croyez-vous que la fontaine de Jouvence ait versé quelque part ses eaux miraculeuses ? Dit le docteur au comte stupéfait de cette transformation. Je le crois, moi, car l'homme n'invente rien, et chacun de ses rêves est une divination ou un souvenir. Mais abandonnons cette forme un instant, repétrie par ma volonté. Et consultons cette jeune fille qui dort tranquillement dans ce coin. Interrogez-la, elle en sait plus long que les pitis et les civils. Vous pouvez l'envoyer dans un de vos 7 châteaux de Bohême, lui demander ce que renferme le plus secret de vos tiroirs, elle vous le dira, car il ne faudra pas à son âme plus d'une seconde pour faire le voyage. Chose après tout peu surprenante, puisque l'électricité parcourt 70 000 lieues dans le même espace de temps, et l'électricité est à la pensée, ce qu'est le fiacre ou wagon. Donnez-lui la main pour vous mettre en rapport avec elle. Vous n'aurez pas besoin de formuler votre question, elle la lira dans votre esprit. La jeune fille, d'une voix atone comme celle d'une ombre, répondit à l'interrogation mentale du comte. Dans le coffret de cèdre, il y a un morceau de terre saupoudré de sable fin sur lequel se voit l'empreinte d'un petit pied. A-t-elle deviné juste ? Dit le docteur négligemment et comme sûr de l'infaillibilité de sa somnambule. Une éclatante rougeur couvrit les joues du comte. Il avait, en effet, au premier temps de leurs amours, enlevé dans une allée d'un parc l'empreinte d'un pas de Praskovie, et il la gardait comme une relique au fond d'une boîte incrustée de nacre et d'argent, du plus précieux travail dont il portait la clé microscopique suspendue à son cou par un jaseron de Venise. Monsieur Balthazar Cherbonneau, qui était un homme de bonne compagnie, voyant l'embarras du comte, n'insista pas et le conduisit à une table sur laquelle était posée une eau aussi claire que le diamant. Vous avez entendu sans doute parler du miroir magique où Méphistophélès fait voir à Faust l'image d'Hélène. Sans avoir un pied de cheval dans mon bas de soie et une plume de coq à mon chapeau, je puis vous régaler de cet innocent prodige. Penchez-vous sur cette coupe et pensez vivement et fixement à la personne que vous désirez faire apparaître. Vivante ou morte, lointaine ou rapprochée, elle viendra à votre appel, du bout du monde ou des profondeurs de l'histoire. Le comte s'inclina sur la coupe, dont l'eau se troubla bientôt sous son regard épris d'éteintes opalines, comme si l'on y eût versé une goutte d'essence. Un cercle irisé des couleurs du prisme couronna les bords du vase, encadrant le tableau qui s'ébauchait déjà sous le nuage blanchâtre. Le brouillard se dissipa. Une jeune femme en peignoir de dentelle, aux yeux verts de mer, aux cheveux d'or crépelés, laissant errer comme des papillons blancs ses belles mains distraites sur l'ivoire du clavier, se dessina, ainsi que sous une glace, au fond de l'eau redevenue transparente, avec une perfection si merveilleuse qu'elle eût fait mourir tous les peintres de désespoir. C'était Praskovie Labinska, qui, sans le savoir, obéissait à l'évocation passionnée du comte. Et maintenant, passons à quelque chose de plus curieux, dit le docteur en prenant la main du comte et en la posant sur une des tiges de fer du baquet mesmérique. Olaf n'eut pas plutôt touché le métal chargé d'un magnétisme fulgurant qu'il tomba comme foudroyé. Le docteur le prit dans ses bras, l'enleva comme une plume, le posa sur un divan, sonna, et dit au domestique qui parut au seuil de la porte « Allez chercher Monsieur Octave de Saville. » Chapitre 6. Le roulement d'un coupé se fit entendre dans la cour silencieuse de l'hôtel, et presque aussitôt Octave se présenta devant le docteur. Il resta stupéfait lorsque M. Cherbonneau lui montra le comte Olaf Labinski étendu sur un divan avec les apparences de la mort. Il crut d'abord à un assassinat et resta quelques instants muet d'horreur. Mais après un examen plus attentif, il s'aperçut qu'une respiration presque imperceptible abaissait et soulevait la poitrine du jeune dormeur. « Voilà !» dit le docteur. « Votre déguisement tout préparé. Il est un peu plus difficile à mettre qu'un domino loué chez Babin. Mais Roméo, en montant au balcon de Vérone, ne s'inquiète pas du danger qu'il y a de se casser le cou. Il sait que Juliette l'attend là-haut, dans la chambre sous les voiles de nuit. Et la comtesse Praskovie Labinska vaut bien la fille des Capulet. Octave, troublé par l'étrangeté de la situation, ne répondait pas. Il regardait toujours le comte, dont la tête légèrement rejetée en arrière, posée sur un coussin et qui ressemblait à ces effigies de chevaliers couchés au-dessus de leur tombeau dans les cloîtres gothiques, ayant sur leur nuque roidie un oreiller de marbre sculpté. Cette belle et noble figure qu'il allait déposséder de son âme lui inspirait malgré lui quelques remords. Le docteur prit la rêverie d'Octave pour de l'hésitation. Un vague sourire de dédain erra sur le pli de ses lèvres, et il lui dit « Oh, si vous n'êtes pas décidé, je puis réveiller le comte, qui s'en retournera comme il est venu, émerveillé de mon pouvoir magnétique. Mais pensez-y bien, une telle occasion peut ne jamais se retrouver. » Pourtant, quelque intérêt que je porte à votre amour, quelque désir que j'ai de faire une expérience qui n'a jamais été tentée en Europe, je ne dois pas vous cacher que cet échange d'âme a ses périls. Frappez votre poitrine, interrogez votre cœur. Risquez-vous franchement votre vie sur cette carte suprême? L'amour est fort comme la mort, dit la Bible. « Non, je suis prêt, » répondit simplement Octave. « Bien, jeune homme, » s'écria le docteur en frottant ses mains brunes et sèches avec une rapidité extraordinaire, comme s'il eût voulu allumer du feu à la manière des sauvages. « Cette passion qui ne recule devant rien me plaît. Il n'y a que deux choses au monde, la passion et la volonté. Si vous n'êtes pas heureux, ce ne sera certes pas de ma faute. » Oh, mon vieux Brahmalogum, tu vas voir du fond du ciel d'Indra, où les asparates entourent de leur cœur voluptueux, si j'ai oublié la formule irrésistible que tu m'as râlée à l'oreille en abandonnant la carcasse momifiée. Les mots et les gestes, j'ai tout retenu. À l'œuvre, nous allons faire dans notre chaudron une étrange cuisine, comme les sorcières de Macbeth, mais sans l'ignoble sorcellerie du Nord. Placez-vous à mon pouvoir. Bien. Les yeux sur les yeux, les mains contre les mains. Déjà, le charme agit. Les notions du temps et d'espace se perdent, la conscience du moi s'efface, les paupières s'abaissent, les muscles ne recevant plus d'ordre du cerveau se détendent, la pensée s'assoupit, tous les fils délicats qui retiennent l'âme au corps sont dénoués. Brahma, dans l'œuf d'or où il rêva 10 000 ans, n'était pas plus séparé des choses extérieures. Saturons-le d'effluves, baignons-le de rayons. Le docteur, tout en marmottant ses phrases entrecoupées, ne discontinuait pas un seul instant ses passes. De ses mains tendues, jaillissaient des laits lumineux qui allaient frapper le front ou le cœur du patient, autour duquel se formait peu à peu une sorte d'atmosphère visible, phosphorescente comme une auréole. « Très bien !» dit M. Balthazar Cherbonneau, s'applaudissant lui-même de son ouvrage. Le voilà comme je veux. Voyons, voyons, qu'est-ce qui résiste encore par là ? S'écria-t-il après une pause, comme s'il lisait à travers le crâne d'Octave le dernier effort de la personnalité près de s'anéantir. Quelle est cette idée mutine qui, chassée des circonvolutions de la cervelle, tâche de se soustraire à mon influence en se pelotonnant sur la monade primitive sur le point central de la vie. Oh, je saurais bien la rattraper et la mater. Pour vaincre cette involontaire rébellion, le docteur rechargea plus puissamment encore la batterie magnétique de son regard et atteignit la pensée en révolte entre la base du cervelet et l'insertion de la moelle épinière, le sanctuaire le plus caché, le tabernacle le plus mystérieux de l'âme. Son triomphe était complet. Alors, Il se prépara avec une solennité majestueuse à l'expérience inouïe qu'il allait tenter. Il se revêtit comme un mage d'une robe de lin. Il lava ses mains dans une eau parfumée. Il tira de diverses boîtes des poudres dont il se fit aux joues et au front des tatouages hiératiques. Il ceignit son bras du cordon des brames, lut deux ou trois slokas des poèmes sacrés et n'omit aucun des rites vicieux recommandés par le sannyasi des grottes d'Elephanta. Ces cérémonies terminées, il ouvrit toutes grandes les bouches de chaleur et bientôt la salle fut remplie d'une atmosphère embrasée qui eût fait se pâmer les tigres dans les jungles, se craqueler leurs cuirasses de vase sur le cuir rugueux des buffles et s'épanouir avec une détonation la large fleur de l'aloès. Il ne faut pas que ces deux étincelles du feu divin qui vont se trouver nus tout à l'heure et dépouillés pendant quelques secondes de leur enveloppe mortelle, pâlissent ou s'éteignent dans notre air glacial, dit le docteur en regardant le thermomètre qui marquait alors 120 degrés Fahrenheit. Le docteur Balthazar Cherbonneau, entre ses deux corps inertes, avait l'air dans ses blancs vêtements du sacrificateur d'une de ces religions sanguinaires qui jetaient des cadavres d'hommes sur l'autel de leur dieu. Il rappelait ce prêtre de Vitzliputzlili, la farouche idole mexicaine dont parle Henry Heine dans l'une de ses ballades, mais ses intentions étaient à coup sûr plus pacifiques. Il s'approcha du contre-olaf Labinski, toujours immobile, et prononça l'ineffable syllabe qu'il alla rapidement répéter sur octave profondément endormie. La figure ordinairement bizarre de M. Cherbonneau avait pris en ce moment une majesté singulière. La grandeur du pouvoir dont il disposait ennoblissait ses traits désordonnés, et si quelqu'un l'eût vu accomplissant ses rites mystérieux avec une gravité sacerdotale, il n'eût pas reconnu en lui le docteur Hoffmannick qui appelait en le défiant le crayon de la caricature. Il se passa alors des choses bien étranges. Octave de Saville et le comte Olaf Labinski parurent agités simultanément comme d'une convulsion d'agonie. Leur visage se décomposa, une légère écume leur monta aux lèvres. La pâleur de la mort décolora leur peau. Et cependant, deux petites lueurs bleuâtres et tremblotantes scintillaient incertaines au-dessus de leur tête. À un geste fulgurant du docteur qui semblait leur tracer leur route dans l'air, les deux points phosphoriques se mirent en mouvement, et laissant derrière eux un sillage de lumière, se rendirent à leur demeure nouvelle. L'âme d'Octave occupa le corps du comte Labinski, l'âme du comte, celui d'Octave, l'avatar était accompli. Une légère rougeur des pommettes indiquait que la vie venait de rentrer dans ces argiles humaines restées sans âme pendant quelques secondes et dont l'ange noir eût fait sa proie sans la puissance du docteur. La joie du triomphe faisait flamboyer les prunelles bleues de Cherbonneau qui se disait en marchant à grands pas dans la chambre « Que les médecins les plus vantés en fassent autant, eux, si fiers de raccommoder tant bien que mal l'horloge humaine lorsqu'elle se détraque. Hippocrate, Galien, Paracelse, Van Helmont, Boerhaave, Tronchin, Hahnemann, Razori, le moindre fakir indien accroupi sur l'escalier d'une pagode, en ces mille fois plus long que vous. Qu'importe le cadavre quand on commande à l'esprit ?» En finissant sa période, le docteur Balthazar Cherbonneau fit plusieurs cabrioles d'exultation et dansa comme les montagnes dans le Shirshashishrim du roi Salomon. Il faillit même tomber sur le nez, s'étant pris le pied au pli de sa robe raménique, petit accident qui le rappela à lui-même et lui rendit tout son sang-froid. Réveillons nos dormeurs, dit M. Charbonneau, après avoir essuyé les raies de poudre colorée dont il s'était strié la figure et dépouillé son costume de brame. Et, se plaçant devant le corps du comte Labinski, habité par l'âme d'Octave, il fit les passes nécessaires pour le tirer de l'état somnambulique, secouant à chaque geste ses doigts chargés du fluide qu'il enlevait. Au bout de quelques minutes, Octave Labinski, désormais nous le désignerons de la sorte pour la clarté du récit, se redressa sur son séant, passa ses mains sur ses yeux et promena autour de lui un regard étonné que la conscience du moi n'illuminait pas encore. Quand la perception nette des objets lui fut revenue, la première chose qu'il aperçut, ce fut sa forme placée en dehors de lui sur un divan. Il se voyait, non pas réfléchi par un miroir, mais en réalité. Il poussa un cri. Ce cri ne résonna pas avec le timbre de sa voix et lui causa une sorte d'épouvante. L'échange d'âmes ayant eu lieu pendant le sommeil magnétique, il n'en avait pas gardé mémoire et éprouvait un malaise singulier. Sa pensée, servie par de nouveaux organes, était comme un ouvrier à qui l'on a retiré ses outils habituels pour lui en donner d'autres. Psyché dépaysée battait de ses ailes inquiètes la voûte de ce crâne inconnu et se perdait dans les méandres de cette cervelle où restaient encore quelques traces d'idées étrangères. « Eh bien, » dit le docteur, lorsqu'il eut suffisamment joui de la surprise d'Octave Labinski, « que vous semble de votre nouvelle habitation ? Votre âme se trouve-t-elle bien installée dans le corps de ce charmant cavalier, Hetman, Ospodar ou Magna, enfin, mari de la plus belle femme du monde ? Vous n'avez plus envie de vous laisser mourir, comme c'était votre projet la première fois que je vous ai vu dans votre triste appartement de la rue Saint-Lazare, maintenant que les portes de l'hôtel Labinski vous sont toutes grandes ouvertes, et que vous n'avez plus peur que Polakovi ne vous mette la main devant la bouche, comme à la Villa Salviati, lorsque vous voudrez lui parler d'amour. Vous voyez bien que le vieux Balthazar Cherbonneau, avec sa figure de macaque, qui ne tiendrait qu'à lui de changer pour un autre, possède encore dans son sac à malice de ses bonnes recettes. Docteur, répondit Octave Labinski, vous avez le pouvoir d'un dieu, ou tout au moins d'un démon. Oh, n'ayez pas peur, il n'y a pas la moindre diablerie là-dedans. Votre salut ne périclite pas. Je ne vais pas vous faire signer un pacte avec un parafrouge. Rien n'est plus simple que ce qui vient de se passer. Le Verbe qui a créé la lumière peut bien déplacer une âme. Si les hommes voulaient écouter Dieu à travers le temps et l'infini, ils en feraient ma foi bien d'autres. Mais par quelle reconnaissance, par quel dévouement reconnaître cet inestimable service? Vous ne me devez rien. Vous m'intéressiez, et pour un vieux lascar comme moi, tanné à tous les soleils, bronzé à tous les événements, une émotion est une chose rare. Vous m'avez révélé l'amour et vous savez que nous autres rêveurs, un peu alchimistes, un peu magiciens, un peu philosophes, nous cherchons tous plus ou moins l'absolu. Mais levez-vous donc, remuez-vous, marchez et voyez si votre peau neuve ne vous gêne pas aux entournures. Octave Labinski obéit au docteur et fit quelques tours par la chambre. Il était déjà moins embarrassé. Quoique habité par une autre âme, le corps du comte conservait l'impulsion de ses anciennes habitudes, et l'hôte récent se confia à ses souvenirs physiques, car il lui importait de prendre la démarche, l'allure, le geste du propriétaire expulsé. Si je n'avais opéré moi-même tout à l'heure le déménagement de vos hommes, je croirais, dit en riant le docteur Balthazar Cherbonneau, qu'il ne s'est rien passé que d'ordinaire pendant cette soirée, et je vous prendrai pour le véritable, légitime et authentique comte lituanien Olaf Labinski, dont le moi sommeille encore là-bas dans la chrysalide que vous avez dédaigneusement laissée. Mais minuit va sonner bientôt, partez, pour que Praskovi ne vous gronde pas et ne vous accuse pas de lui préférer le lansquenet ou le baccarat. Il ne faut pas commencer votre vie d'époux par une querelle, ce serait de mauvais augure. Pendant ce temps, je m'occuperai de réveiller votre ancienne enveloppe avec toutes les précautions et les égards qu'elle mérite. Reconnaissant la justesse des observations du docteur, Octave Labinski se hâta de sortir. Au bas du perron, piaffaient d'impatience les magnifiques chevaux bais du comte qui, en mâchant leur mort, avaient des venteux couvert le pavé d'écume. Au bruit de pas du jeune homme, un superbe chasseur vert de la race perdue des Helducs se précipita vers le marchepied qu'il abattit avec fracas. Octave, qui s'était d'abord dirigé machinalement vers son modeste brougham, s'installa dans le haut et splendide coupé et dit au chasseur, qui jeta le mot au cocher, « À l'hôtel !» La portière à peine refermée, les chevaux partirent en faisant des courbettes, et le digne successeur des Almansor et des Azolan se suspendit au large cordon de passementerie avec une prestesse que n'aurait pas laissé supposer sa grande taille. Pour des chevaux de cette allure, la course n'est pas longue de la rue du Regard au faubourg Saint-Honoré. L'espace fut dévoré en quelques minutes, et le cocher cria de sa voix de stentor « La porte !» Les deux immenses battants, poussés par le Suisse, livrèrent passage à la voiture, qui tourna dans une grande cour sablée et vint s'arrêter avec une précision remarquable sous une marquise rayée de blanc et de rose. La cour qu'Octave Labinski détailla avec cette rapidité de vision que l'âme acquiert en certaines occasions solennelles était vaste, entourée de bâtiments symétriques, éclairée par des lampadaires de bronze dont le gaz dardait ses langues blanches dans des fanaux de cristal, semblables à ceux qui ornaient autrefois le Bucentaure, et sentait le palais plus que l'hôtel. Des caisses de rangées dignes de la terrasse de Versailles étaient posées de distance en distance sur la marge d'asphalte qui encadrait comme une bordure le tapis de sable formant le milieu. Le pauvre amoureux transformé, en mettant le pied sur le seuil, fut obligé de s'arrêter quelques secondes et de poser sa main sur son cœur pour en comprimer les battements. Il avait bien le corps du comte Olaf Labinski, mais il n'en possédait que l'apparence physique. Toutes les notions que contenait cette cervelle s'étaient enfuies avec l'âme du premier propriétaire. La maison qui désormais devait être la sienne lui était inconnue. Il en ignorait les dispositions intérieures. Un escalier se présentait devant lui, il le suivit à tout hasard, sauf à mettre son erreur sur le compte d'une distraction. Les marches de pierre poncée éclataient de blancheur et faisaient ressortir le rouge opulent de la large bande de maquettes retenue par des baguettes de cuivre doré qui dessinaient au pied son moelleux chemin. Les jardinières remplies des plus belles fleurs exotiques montaient chaque degré avec vous. Une immense lanterne découpée et fenestrée suspendu à un gros câble de soie pourpre orné de houppes et de nœuds, faisait courir des frissons d'or sur les murs revêtus d'un suc blanc et poli comme le marbre, et projetait une masse de lumière sur une répétition de la main de l'auteur d'un des plus célèbres groupes de Canova, L'amour embrassant Psyché. Le palier de l'étage unique était pavé de mosaïques d'un précieux travail, et aux parois, des cordes de soie suspendaient quatre tableaux de Paris Bordone, de Bonifazio, de Palma le Vieux et de Paul Véronèse, dont le style architectural et pompeux s'harmonisait avec la magnificence de l'escalier. Sur ce palier s'ouvrait une haute porte de serge relevée de clous dorés. Octave Labinski la poussa et se trouva dans une vaste antichambre où sommeillaient quelques laquais en grande tenue qui, à son approche, se levèrent comme poussés par des ressorts et se rangèrent le long des murs avec l'impassibilité d'esclaves orientaux. Il continua sa route. Un salon blanc et or, où il n'y avait personne, suivait l'antichambre. Octave tira une sonnette. Une femme de chambre parut. « Madame peut-elle me recevoir ?»« Madame la comtesse est en train de se déshabiller, mais tout à l'heure, elle sera visible. »